Des Israéliens veulent rendre leurs terres aux Palestiniens.
Ils sont minoritaires en Israël, mais leur voix arrive à se faire entendre sur la scène internationale. En 2018, ils commémorent avec le peuple de Palestine les 70 ans de la Nakba, ces jours funestes de la création de l'État d'Israël où ils durent quitter leur territoire. On estime à 750 000 personnes ceux qui ont été chassés de Palestine autour de cette période, auxquels s'ajoutent 130 000 Syriens expulsés du Golan. Il faut imaginer cette expulsion massive, plus de 5 fois la population des Alpes de Haute-Provence. Depuis, les camps de réfugiés palestiniens sont nombreux dans la région et ceux qui vivent dans les territoires occupés n'ont pas vraiment la vie facile. Les réfugiés non plus d'ailleurs. Et encore aujourd'hui, l'État juif maintient une pression insupportable sur les populations en poursuivant l'installation de colonies au détriment des Palestiniens. En première ligne des opposants israéliens à cette situation, le laboratoire de recherche Decolonizer, qu'on pourrait traduire maladroitement mais en respectant le sens et l'esprit, décolonisateur. D'origine française et vivant à Tel Aviv depuis des années, Eleonore Merza Bronstein est anthropologue, elle co-dirige Decolonizer et a répondu à l'invitation de l'association France-Palestine Solidarité pour évoquer la situation historique et actuelle. Accueillie à Manosque par la présidente de la FPS 04, Mireille Sève, et ses amis, elle a présenté carte à la pluie, l'ampleur du désastre et évoqué les pistes d'un règlement du conflit entre Israël et les Palestiniens dans et en dehors de ses frontières. Nous avons interviewé cette militante de la décolonisation qui n'a pas que des amis, faut-il le préciser, en Israël. Nous évoquons ses travaux, mais aussi, plus généralement, les annonces de Donald Trump sur Jérusalem ou la situation critique du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Eleonore Merza Bronstein, vous êtes résidente israélienne de passage en France à l'invitation de l'association France-Palestine Solidarité 04. Vous allez animer une conférence sur les territoires colonisés. Première question extrêmement brutale, est-ce qu'il est possible de les décoloniser ?
J'espère. C'est tout l'enjeu du travail de l'organisation que j'ai cofondée avec Ethan Bronstein, qui s'appelle justement Decolonizer, la décolonisation, parce qu'on pense qu'il n'y a pas d'avenir pour la société israélienne telle qu'elle se présente et avec la politique qu'elle mène. Donc nous espérons, au-delà du travail de justice qui doit être fait pour nos amis palestiniens et palestiniens, nous espérons un vrai devoir et un vrai travail de décolonisation pour nous permettre à nous aussi, juifs israéliens, d'espérer un futur un petit peu meilleur.
Qu'est-ce que ça représente, les colonisations, pour les Israéliens de manière générale ?
Pour les Israéliens, la colonisation est une conquête. D'ailleurs, c'est le même mot. Donc, ce qui est conquis n'a pas une connotation péjorative. Il faut savoir que les Israéliennes et Israéliens font en général un distinguo très clair entre les territoires occupés, c'est-à-dire après ce qu'on appelle la ligne verte, les territoires de 67, qui d'ailleurs en hébreu deviennent shtachim, les territoires, ils sont plus occupés dans le vocabulaire de l'hébreu contemporain, et ce qu'on appelle l'État d'Israël, ou que dans le langage militant, on peut appeler aussi Palestine 48, qui était le territoire de la Palestine historique avant l'établissement de l'État d'Israël en 1948. Et cette distinction entre 48 et 67, donc 67, on parle des territoires occupés, de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. On oublie aussi qu'il y a une autre partie d'un territoire qui a été colonisé et occupé en 67, c'est le Golan syrien, dont on oublie souvent de le ramener dans la photo générale de l'occupation, et puis donc ce qui est devenu le territoire de la Palestine historique, Israël. Nous, notre position à Decolonizer est de dire que le problème ne se situe pas que de l'autre côté du mur, que de l'autre côté des colonies, et que Tel Aviv, par exemple, où moi j'habite, contrairement à la mythologie bien installée, n'est pas né du sable. Tel Aviv est né d'un petit territoire sur le sable à côté de Jaffa, mais a été développé sur les ruines de 7 villages palestiniens. Donc quand on habite à Tel Aviv, j'en suis pas très fière, mais on est aussi des colons.
Je suppose qu'avec votre association et vos amis, les membres de cette association, vous vous rendez relativement fréquemment dans ces territoires occupés.
Absolument. Nous nous y rendons pour, d'abord, la raison la plus évidente, c'est qu'on continue à travailler avec des partenaires et des collègues palestiniens de Cisjordanie. Alors, la bande de Gaza, on n'y a pas accès, on peut pas y aller. Nous travaillons, par contre, beaucoup avec le Golan occupé, syrien. Et pourquoi cette raison, pourquoi continuer à aller, c'est aussi utiliser notre privilège de juifs israéliens à pouvoir nous déplacer, ce qui n'est pas le cas de nos amis, par exemple, du camp d'Aïda ou de Deïché, qui, s'ils voulaient venir nous voir à Tel Aviv, ne pourraient pas, de l'autre côté, de l'autre sens, venir nous voir. Donc nous pensons que c'est un devoir politique de continuer à nous rendre dans les territoires occupés, alors que notre gouvernement fait tout pour nous en empêcher. Il y a des panneaux à l'entrée de certaines zones des territoires occupés qui préviennent les citoyens israéliens du danger qu'ils ont à s'y trouver, parce que c'est un système qui fonctionne beaucoup autour de la peur. Donc tant qu'on a peur de l'autre, on continue à ne pas le voir. Et c'est aussi ça qui fait le ciment d'une société. J'ai un collègue sociologue qui dit souvent « tant qu'on fait la guerre aux Arabes, on se fait pas la guerre entre nous ». Et je pense qu'il a vraiment résumé en une phrase quelle était la dynamique de cette société.
Est-ce que, avec vos amis et qui demandent la décolonisation de ces endroits, vous représentez une certaine force sur l'échelle politique israélienne ?
Alors j'aimerais dire que oui, mais non. Nous ne représentons absolument rien en termes, pas rien, rien, c'est le zéro en mathématiques, on n'est pas zéro, mais le poids d'organisations comme nous est absolument minime et très peu audible sur la société civile israélienne. C'est pour ça d'ailleurs qu'on pense que sans pression internationale, notamment de la communauté européenne, il n'y aura pas de changement significatif sur le terrain.
Et puis on a appris dernièrement qu'un certain échevelé du côté de Washington voulait installer une ambassade à Jérusalem. C'est une provocation qui doit être insupportable pour des gens de votre mouvance.
C'est non seulement insupportable, mais c'est aussi une provocation monstrueuse qui est faite en ce triste anniversaire. C'est le 70e anniversaire de la Nakba. La Nakba, c'est un mot en arabe qui signifie la catastrophe et qui désigne l'expulsion de 750 000 Palestiniennes et Palestiniens et la destruction de 615 localités en 1948 dans le but de l'établissement d'un État juif. Donc c'est évidemment une provocation insupportable pour les Palestiniens et pour les Israéliens anticoloniaux dont je fais partie. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est un peu provoque de le dire, mais j'ai envie de dire que on y verra un peu plus clair dans le jeu finalement. Parce que ça va pas changer beaucoup de choses en termes de politique américaine. La politique américaine de soutien à Israël est absolue. Et donc finalement, on se trouve avec Donald Trump qui met les pieds dans le plat, alors qu'il fait quelque chose d'absolument provocateur et honteux, mais qui finalement ne changera pas beaucoup la donne de la politique américaine sur le terrain. Par contre, c'est peut-être le moment pour la communauté internationale, pour la France, pour l'Europe, d'aussi prendre position. J'ai entendu dire qu'au dîner du CRIF, il y a quelques jours, le directeur du CRIF avait interpellé Emmanuel Macron en demandant à la France de reconnaître à son tour Jérusalem comme capitale d'Israël, et que Emmanuel Macron avait, en tout cas pour le moment, refusé. Et je pense qu'il est important de continuer à dire que Jérusalem est une capitale disputée, qu'elle ne peut pas, pour le moment, dans l'état des choses, être reconnue comme la capitale unique de l'État d'Israël.
Actuellement, Benjamin Netanyahou est dans une phase plutôt difficile au niveau intérieur. Comment vous voyez son avenir vous-même ?
En prison. Il est très vraisemblable qu'il tombe pour corruption. Il y a de plus en plus de dossiers qui sont vraiment évidents. Et alors, Israël a, j'ai l'habitude de dire qu'Israël n'est pas une démocratie, mais Israël a des attributs démocratiques, et notamment celui de mettre des présidents en exercice ou des ministres en exercice en prison pour viol ou corruption, par exemple, ce qui n'est pas toujours le cas en France, par exemple.
Vous allez, je suppose, continuer votre combat en vous appuyant, vous l'avez dit, sur la communauté internationale, notamment l'Europe. Cette vision qu'ont vos amis de la FPS 04, ça vous convient ?
Absolument. La FPS a été une des premières organisations à comprendre l'intérêt de donner la parole à ces Israéliens, ces voix alternatives israéliennes. Alors on peut les appeler antisionistes, décoloniales, chacune se retrouvera avec une étiquette qu'elle définira elle-même. Et c'est vraiment un plaisir d'être invité, non pas comme petit folklore, hein, les Israéliens un petit peu sympathiques, mais vraiment comme acteurs d'une lutte politique. Et effectivement, le combat qui est mené par la FPS au sein des collectifs, au sein de la plateforme Palestine, au sein de toute une série d'associations qui militent pour le droit à l'autodétermination et la libération du peuple palestinien. Ces associations font un travail qui est non seulement remarquable, mais qui est absolument... on ne pourrait pas faire sans ce travail. C'est très très important.
Dernière question, comment voyez-vous l'avenir de votre pays ?
C'est compliqué parce que nous sommes un certain nombre à penser que c'est une société qui va droit dans le mur, ce qui est aussi douloureux quand on y a des attaches, quand on y a sa famille, quand on y élève ses enfants, mais c'est une société qui ne peut pas continuer telle qu'elle est. Je voudrais reprendre les mots d'Henri Laurence qui dit qu'il n'y a pas d'occupation pacifique. Ça n'existe pas, l'occupation pacifique. Donc, tous les systèmes d'occupation, tous les systèmes coloniaux finissent par tomber un jour. Et la France, encore une fois, ça me permet de faire toujours le lien avec la France, mais la France est bien placée pour le savoir. Les empires coloniaux ne durent pas et ce sera la même chose en Israël. J'ai espoir que le droit et la justice triomphent.